Rémi.
Bonjour Martine. Après la période de confinement, que proposons-nous aux auditeurs de Radio B?
Un bol d'oxygène, de l'espace. Allons nous promener dans la belle vallée de l'Ain et arrêtons-nous à Serrières-sur-Ain pour évoquer le franchissement de la rivière depuis les temps anciens. Le site est particulier, à un carrefour parfait, réglé sur les points cardinaux. D'où que l'on vienne, la première image du site est toujours saisissante.
Nous en parlons après quelques notes de musique. Nous évoquons la belle vallée de l'Ain, et plus particulièrement le pont de Serrières-sur-Ain. Avant même l'existence d'un pont, il est difficile d'imaginer que le site ait été situé sur une route royale. Comment l'expliquer?
Prenons les carnets de l'histoire. Jean-Baptiste Colbert, au XVIIe siècle, ministre de Louis XIV, a encouragé le commerce et l'industrie par l'amélioration des routes. Tout prend du temps. Et le concept des routes royales est vraiment défini au début du XVIIIe siècle. Les routes existent déjà et certaines sont bien utilisées. Parmi celles-ci, il s'agit de définir celles qui seront améliorées par des subventions du royaume dans l'intérêt du royaume.
C'est ainsi que Serrières se trouve sur la route royale de Nevers à Genève qui passe par Charolles, Mâcon, Bourg et Nantua. Tout le réseau français est à améliorer. Le temps passe, la révolution survient, l'empire passe, trépasse et la royauté est restaurée.
Et au début des années 1820, elle reprend le dossier des routes à améliorer. Ces routes deviennent des routes royales et elles sont numérotées. Par simple commodité, mais ce numérotage est maintenu jusqu'à nos jours. Ainsi, la route de Nevers à Genève devient la route royale numéro 79.
Serrières a une route royale, mais pas de pont pour traverser la rivière. Étonnant. Comment l'expliquer?
Replaçons-nous dans le contexte. On se déplace essentiellement à pied ou à cheval. Et les transports de marchandises sont peu importants et limités en distance. Selon leur importance, les routes royales sont de première ou de troisième classe. La route numéro 79 est de troisième classe.
De troisième classe? Bon, mais comment traverse-t-on l'Ain?
Par un ingénieux système, un bac à trailles. C'est un plateau de bois attaché à un câble tendu d'une rive à l'autre. Un marinier est à la manœuvre pour la traversée de la rivière. En général, un bac est suffisamment grand et large pour recevoir une voiture avec son cheval attelé. C'est imposant.
La traversée de la rivière est soumise aux aléas des crues. Pour une route royale, il faut un pont. Quand est-il construit?
Le département demande ce pont et le ministère des Travaux publics l'accorde en décembre 1833. Un mois plus tard, la construction est adjugée à M. Paret, un ingénieur lyonnais. Un délai de 2 ans lui est donné. L'État lui accorde une subvention et lui percevra les péages pendant 25 ans. Ses concurrents proposaient des péages de 33 à 79 ans.
Comment sera ce pont?
Un pont suspendu. C'est ce qui coûte le moins cher à l'époque. Des culées et des piliers sont élevés à chaque extrémité et le tablier de bois est supporté par des câbles. Les contraintes locales sont surmontées. Les travaux sont menés avec célérité, selon l'expression de l'époque, et le pont est livré bien avant la fin du délai accordé. Il est en service en janvier 1835.
Dans quelles conditions?
Après des essais de solidité, en présence du préfet. Celui-ci peut le livrer à la circulation. Le pont a supporté une charge de 76 tonnes. Il comporte une seule travée, avec 2 voies de circulation et 2 trottoirs. Chroniqueur d'un journal local estime, je le cite, La simplicité de sa construction est en harmonie avec l'aspect général du pays où il est situé, au sein d'une nature riante et cultivée. On eût pu y désirer plus d'élégance, mais il est en parfait accord avec la gravité du paysage.
Martine, vous avez d'autres commentaires ?
Ah oui, il offre déjà toutes les garanties de solidité. Il a une hauteur de 66 mètres, il est à 3 mètres au-dessus des plus hautes eaux. Pourtant, une remarque est notée. L'arrivée sur le pont côté Nantua est bien abrupte. Il faudra l'adoucir par une déviation dans les années qui suivent.
Quelles sont les retombées pour le village de Serrières ?
Bien difficile à dire. Les archives manquent. Les recensements de la population auraient pu nous renseigner. Il semble que ce pont ne trouble pas la vie paisible d'un village essentiellement agricole. Ce pont est surtout utile au trafic local.
On ne va pas à Nantua ?
Oh, mais si, mais on passe davantage par Pondin et Neuville-sur-Ain, où un pont de pierre est ouvert depuis 1774. On continue ensuite par Mérignat et Cerdon. Ce trajet n'est pas de tout repos avec les montagnes à franchir. Il faut des chevaux de renfort en de multiples endroits.
Il n'y en a pas à Serrières ?
A priori non, ou très peu. Il en faudrait de chaque côté du pont, mais le village n'est situé que sur les hauteurs de la rive gauche. Les lieux ne se prêtent guère à l'installation du roulage, c'est-à-dire l'activité liée à la route, avec auberge et les métiers autour du cheval.
Avec le temps, cela ne s'améliore pas ?
Même pas. La route de Lyon à Genève est améliorée. Ensuite, le chemin de fer relie Lyon à Genève en 1856-1858. On constate alors un fléchissement de la circulation sur le pont. La concession est d'ailleurs rachetée en 1860. Ensuite, le chemin de fer est construit de Bourg à la Cluse en 1877, puis prolongé jusqu'à Nantua et Bellegarde en 1882. Un chemin de fer qui traverse les montagnes par des tunnels et des viaducs.
Notre pont suspendu est donc peu fréquenté.
Il est cependant régulièrement entretenu. Dans son ouvrage « L'un des grands ponts », notre collègue Maurice Brocard écrit que des travaux ont été entrepris en 1901, 1933 et 1939. La circulation automobile se développe et il faut adapter le pont au passage des camions. On renforce les piliers, on remplace le tablier de bois par un tablier en ciment armé. De flexible, il devient rigide.
Quand est-il rendu à la circulation ?
Le 5 septembre 1940. Ces travaux ont été interrompus pendant la première occupation du département de l'Ain en juin 1940.
À l'automne 1940, les conditions de vie ont bien changé.
En effet, là nous sommes sous le régime de Vichy. La France est vaincue et doit livrer du ravitaillement à l'Allemagne nazie. La France manque de camions. Alors, pour le test de solidité, on utilise des bâches et le pont supporte 100 tonnes d'eau. C'est un peu du travail à la petite semaine.
Le pont est praticable, mais est-il bien utilisé ?
Plus ou moins, mais on n'a plus d'essence pour les automobiles. Le pont est donc essentiellement parcouru par des cyclistes s'ils ont des jarrets d'acier pour gravir les côtes, comme décrit un journaliste.
Et après ?
Bien, la guerre se prolonge, tout le pays est occupé. Des jeunes refusant d'aller travailler en Allemagne, des maquis se forment. La résistance est très active dans notre région. Et les Allemands attaquent à 3 reprises les maquis de l'Ain, sans beaucoup de succès. En juillet 1944, l'assaut allemand est très violent. Les maquisards dynamitent les ponts sur l'Ain le 12 juillet 1944.
Donc, plus de ponts à Serrières. Alors ?
Alors, retour au bac à trailles. Les ponts et chaussées le mettent en place en août 1945, jusqu'à la réparation du pont 2 ans plus tard, comme pour la plupart des ponts dynamités.
La situation est rétablie et on s'intéresse à l'énergie de l'eau.
L'eau qui coule sous le pont. Un premier barrage a été mis en service à Cise-Bolozon en 1931. On projette un nouveau barrage en aval de Serrières, au hameau d'Allemand à la fin des années 1950.
Et le pont de Serrières va être noyé par la nouvelle retenue d'eau. Alors
non. Il faut un nouveau pont à 45 mètres au-dessus de la rivière. Et là, on fait dans la hardiesse, avec une seule arche en béton et un tablier de 222 mètres de long. C'est le pont actuel. Le coffrage en bois du cintre est lancé de part et d'autre de la rivière, sans appui intermédiaire. L'avancement des travaux passionne le public. C'est une curiosité touristique et le but d'une balade dominicale, en famille ou entre amis. L'automobile se développe.
Les touristes ne sont pas les seuls à s'intéresser à ces travaux.
En accord avec l'administration des ponts et chaussées, le cinéaste amateur de Bourg, M. Page, filme les différentes étapes de la construction pour réaliser un court-métrage technique et touristique de 40 minutes. Ce film sonorisé, en couleur, de 16 mm, tout ça c'est pour les initiés, est présenté le 21 juin 1960 à Paris à des ingénieurs à l'Institut national du bâtiment. Le pont n'est pas exceptionnel, mais dans sa catégorie, c'est un bel ouvrage d'art.
Ouvert au début du mois de décembre 1960.
Et après le test de solidité, statique, réalisé avec une charge de 400 tonnes, avec l'aide de 23 camions, amené progressivement sur le pont. Le cintre ne s'est affaissé que de 6 mm, conformément aux prévisions. Ensuite, un camion de 24 tonnes a été lancé à vive allure sur le pont pour le test dynamique. Tout est conforme. L'ouvrage peut accueillir la circulation automobile. Et, aussitôt, l'ancien pont est démoli. Et on met le barrage en eau le 15 décembre 1960.
La vallée de l'Ain bénéficie ainsi de deux réalisations techniques modernes pour leur époque.
Toujours agréable à voir aujourd'hui. Même si, depuis, on a fait beaucoup plus grandiose, notamment avec l'autoroute des Titans de Bourg à Bellegarde. Cette autoroute a capté la circulation et la vallée de l'Ain est restée dans sa discrétion naturelle et verdoyante. Elle mérite d'être découverte, de Pont-Saint à Thoirette, pour la partie que nous avons évoquée. Il suffit de prendre son temps, de s'arrêter fréquemment ou de la parcourir à vélo ou en tandem, comme vous le faites Rémi. Les randonneurs pédestres connaissent aussi les multiples sentiers de randonnée surplombant l'Ain. Une belle excursion pour l'été qui arrive.
Et le bol d'air est assuré. Martine, nous retrouvons les auditeurs de Radio B.
Sur 90 FM, le mois prochain, avec une nouvelle chronique du passé. Avant de nous séparer, restons sur le pont en écoutant des Crevers. Au revoir.
Au revoir à tous. Restez prudents.
De ton visage à mon village, il y a cette rivière qui coule toute la nuit. Entre tes yeux et les miens qui pleurent, il y a ce fleuve qui s'amuse à nous séparer. Faire un pont pour de bon, lui donner pour t'embrasser, faire un pont pour te pondre. J'ai essayé de naviguer vers d'autres cœurs, mais le tien chante si fort. Entre nous deux et le monde entier, pour nous séparer, faire un pont pour de bon, lui donner ton prénom, le traverser pour t'embrasser, faire un pont pour de bon.